L'amitié de Monsieur Berthelot et l'approbation de ma sœur furent les deux grandes consolations qui me soutinrent dans ce difficile moment où le sentiment d'un devoir abstrait envers la vérité m'imposa de changer à 23 ans la direction d'une vie déjà si fortement engagée. Ce ne fut en réalité qu'un changement de domicile et d'extérieur. Le fond resta le même, la direction morale de ma vie sortit de cette épreuve très peu infléchie. L'appétit de vérité qui était le mobile de mon existence ne fut en rien diminué. Mes habitudes et mes manières ne se trouvèrent presque en rien modifiées. Saint-Sulpice, en effet, avait laissé en moi une si forte trace que pendant des années je restais sulpicien non par la foi, mais par les mœurs. Cette éducation excellente, qui m'avait montré la perfection de la politesse en M. Gosselin, la perfection de la bonté en M. Carbon, la perfection de la vertu en M. Pinault, M. Le Hire, M. Gautofray, avait donné à ma nature docile un pli ineffaçable. Mes études, vivement continuées hors du séminaire, me confirmèrent si absolument dans mes présomptions contre la théologie orthodoxe qu'au bout d'un an, j'avais peine à comprendre comment autrefois j'avais pu croire. Mais la foi disparut, la morale reste. Pendant longtemps, mon programme fut d'abandonner le moins possible du christianisme et d'en garder tout ce qui peut se pratiquer sans la foi au surnaturel. Je fis en quelque sorte le triage des vertus du sulpicien, laissant celles qui tiennent à une croyance positive, retenant celles qu'un philosophe peut approuver. Telle est la force de l'habitude. Le vide fait quelquefois le même effet que le plein. Est pro corde locus. La poule à qui l'on a arraché le cerveau continue néanmoins, sous l'action de certains excitants, à se gratter le nez. Je m'efforçais donc, en quittant Saint-Sulpice, de rester aussi sulpicien que possible. Les études que j'avais commencées au séminaire m'avaient tellement passionné que je ne songeais qu'à les reprendre. Une seule occupation me parut digne de remplir ma vie. C'était de poursuivre mes recherches critiques sur le christianisme par les moyens beaucoup plus larges que m'offrait la science laïque. Je me figurais toujours en compagnie de mes maîtres, discutant avec eux les objections et leur prouvant que des pages entières de l'enseignement ecclésiastique sont à réformer. Quelque temps, je continuais de les voir, surtout M. Le Hire. Puis je sentis que les rapports de l'homme de foi avec l'incrédule deviennent vite assez pénibles, et je m'interdis des relations qui ne pouvaient plus avoir d'agrément ni de fruits que pour moi seul. Dans l'ordre des idées critiques, je cédais également le moins possible, et c'est ce qui fait que, tout en étant rationaliste sans réserve, j'ai néanmoins plus d'une fois paru un conservateur dans les discussions relatives à l'âge et à l'authenticité des textes. La première édition de mon Histoire générale des langues sémitiques contient ainsi, en ce qui concerne l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques, des faiblesses pour les opinions traditionnelles que j'ai depuis successivement éliminées. Dans mes origines du christianisme, au contraire, cette réserve m'a bien guidé, car dans ce travail, je me suis trouvé en présence d'une école exagérée, celle des protestants de Tubingue, esprit sans tact littéraire et sans mesure, auxquels, par la faute des catholiques, des études sur Jésus et l'âge apostolique se sont trouvées presque exclusivement abandonnées. Quand la réaction viendra contre cette école, on trouvera peut-être que ma critique, d'origine catholique et successivement émancipée de la tradition, m'a fait bien voir certaines choses et m'a préservé de plus d'une erreur. Mais c'est surtout par le caractère que je suis resté essentiellement l'élève de mes anciens maîtres. Ma vie, quand je la repasse, n'a été qu'une application de leurs qualités et de leurs défauts. Seulement, ces qualités et ces défauts, transportés dans le monde, ont amené les dissonances les plus originales. Tout est bien qui finit bien, et le résultat de l'existence ayant été en somme pour moi très agréable, je m'amuse souvent, comme Marc Aurèle sur les bords du Grand, à supputer ce que je dois aux influences diverses qui ont traversé ma vie et en ont fait le tissu. Eh bien, Saint-Sulpice m'en apparaît toujours comme le facteur principal. Je parle de tout cela fort à mon aise, car j'y ai très peu de mérite. J'ai été bien élevé, voilà tout. Ma douceur, qui vient souvent d'un fond d'indifférence, mon indulgence, qui, elle, est très sincère et tient à ce que je vois clairement combien les hommes sont injustes les uns pour les autres, mes habitudes consciencieuses, qui sont pour moi un plaisir, la capacité indéfinie que j'ai de m'ennuyer, venant peut-être d'une inoculation d'ennui tellement forte en ma jeunesse que j'y suis devenu réfractaire pour le reste de ma vie, tout cela s'explique par le milieu où j'ai vécu et les impressions profondes que j'ai reçues. Depuis ma sortie de Saint-Sulpice, je n'ai fait que baisser, et pourtant, avec le quart des vertus d'un sulpicien, j'ai encore été, je crois, fort au-dessus de la moyenne. Il me plairait d'expliquer par le détail et de montrer comment la gageure paradoxale de garder les vertus cléricales sans la foi qui leur sert de base et dans un monde pour lequel elles ne sont pas faites, produisit, en ce qui me concerne, les rencontres les plus divertissantes. J'aimerais à raconter toutes les aventures que mes vertus sulpiciennes m'amenèrent et les tours singuliers qu'elles m'ont joués. Après 60 ans de vie sérieuse, on a le droit de sourire. Et où trouver une source de rire plus abondante, plus à portée, plus inoffensive qu'en soi-même? Si jamais un auteur comique voulait amuser le public de mes ridicules, je ne lui demanderais qu'une seule chose, c'est de me prendre pour collaborateur. Je lui conterais des choses 20 fois plus amusantes que celles qu'il pourrait inventer. Mais je m'aperçois que je manque outrageusement à la première règle que mes excellents maîtres m'avaient donnée, qui est de ne jamais parler de soi. Je ne traiterai donc cette dernière partie de mon sujet que tout à fait en raccourci. 4 vertus me semblent résumer l'enseignement moral que me donnèrent, surtout par leurs exemples, les pieux directeurs qui m'entourèrent de leurs soins jusqu'à l'âge de 23 ans. Le désintéressement ou la pauvreté, la modestie, la politesse et la règle des mœurs. Je vais m'examiner sur ces 4 points, non pour relever le moins du monde mes propres mérites, mais pour fournir à ceux qui profèrent la philosophie du doute aimable l'occasion de faire à mes dépens quelques-unes de leurs fines observations. 1. La pauvreté est celle des vertus de la cléricature que j'ai le mieux gardée. Monsieur Ollier avait fait faire dans son église un tableau où Saint-Sulpice établissait la règle fondamentale de ses clercs « Habentes alimenta et quibus tegamur is contenti sumus ». Voilà bien ma règle. Mon rêve serait d'être logé, nourri, vêtu, chauffé, sans que j'eusse à y penser, par quelqu'un qui me prendrait à l'entreprise et me laisserait toute ma liberté. Le régime qui s'établit pour moi le jour où j'entrais au Père dans la petite pension du Faubourg Saint-Jacques devait être la base économique de toute ma vie. Une ou deux leçons particulières me permettaient de ne pas toucher aux 1200 francs de ma sœur. C'était bien la règle que j'avais vue observée par mes maîtres de Tréguier et de Saint-Sulpice. Victum et vestitum. La table, le logement, et de quoi s'acheter une soutane par an. Je n'avais jamais désiré autre chose pour moi-même. La petite aisance que j'ai maintenant ne m'est venue que tard, et malgré moi. J'envisage le monde comme m'appartenant, mais je n'en prends que l'usufruit. Je quitterai la vie sans avoir possédé d'autre chose que celle qui se consomme par l'usage, selon la règle franciscaine. Toutes les fois que j'ai voulu acheter un coin de terre quelconque, une voix intérieure m'en a empêché. Cela m'a semblé lourd, matériel, contraire au principe « non habeus hic manentem civitatem ». Les valeurs sont choses plus légères, plus éthérées, plus fragiles, elles attachent moins et on risque plus de les perdre. Au train que prend maintenant le monde, c'est là un amer contresens. Et quoique la règle que j'ai choisie m'ait mené au bonheur, je ne conseillerais à personne de la suivre. Je suis maintenant trop vieux pour changer. Et d'ailleurs, je suis content, mais je croirais duper les jeunes gens en leur disant de faire de même. tirer de soi toute la mouture qu'on en peut tirer, voilà ce qui devient la règle du monde. L'idée que le noble est celui qui ne gagne pas d'argent, et que toute exploitation commerciale ou industrielle, quelle qu'honnête qu'elle soit, ravale celui qui l'exerce et l'empêche d'être du premier cercle humain, cette idée s'en va de jour en jour. Voilà ce que produit une différence de 40 ans dans les choses humaines. Tout ce que j'ai fait autrefois paraîtrait maintenant acte de folie. Et parfois, en regardant autour de moi, je crois vivre dans un monde que je ne reconnais plus. L'homme voué aux travaux désintéressés est un mineur dans les affaires du monde. Il faut qu'il ait un tuteur. Or, notre monde est assez vaste pour que toute place à prendre soit prise. Tout emploi crée en quelque sorte celui qui doit le remplir. Je n'avais jamais imaginé que le produit de ma pensée pût avoir une valeur vénale. Toujours j'avais songé à écrire, mais je ne croyais pas que cela pût rapporter un sou. Quel fut mon étonnement le jour où je vis entrer dans ma mansarde un homme à la physionomie intelligente et agréable qui me fit compliment sur quelques articles que j'avais publiés et m'offrit de les réunir en volume. Un papier timbré qu'il avait apporté stipulait des conditions qui me parurent étonnamment généreuses, si bien que quand il me demanda si je voulais que tous les écrits que je ferais à l'avenir fussent compris dans le même contrat, je consentis. Il me vint un moment l'idée de faire quelques observations, mais la vue du timbre m'interdit. L'idée que cette belle feuille de papier serait perdue m'arrêta. Je fis bien de m'arrêter. Monsieur Michel Lévy avait dû être créé par un décret spécial de la Providence pour être mon éditeur. Un littérateur qui se respecte doit n'écrire que dans un seul journal, dans une seule revue, et n'avoir qu'un seul éditeur. Monsieur Michel Lévy et moi n'eûmes ensemble que des rapports excellents. Plus tard, il me fit remarquer que le contrat qu'il m'avait présenté n'était pas assez avantageux pour moi, et il en substitua un autre plus large encore. Après cela, on me dit que je ne lui ai pas fait faire de mauvaises affaires. J'en suis enchanté. En tout cas, je peux dire que s'il y avait en moi quelque capital de production littéraire, la justice voulait qu'il y eût sa large part. C'est bien lui qui l'avait découvert, je ne m'en étais jamais douté. 2. Il est très difficile de prouver qu'on est modeste, puisque du moment qu'on dit l'être, on ne l'est plus. Je le répète, nos vieux maîtres chrétiens avaient là-dessus une règle excellente, qui est de ne jamais parler de soi, ni en bien, ni en mal. Voilà le vrai. Mais le public est ici le grand corrupteur. Il encourage au mal. Il induit l'écrivain à des fautes pour lesquelles il se montre ensuite sévère, comme la bourgeoisie, réglée d'autrefois, applaudissait le comédien et en même temps l'excluait de l'église. Damne-toi, pourvu que tu m'amuses. Voilà bien souvent le sentiment qu'il y a au fond des invitations, en apparence les plus flatteuses, du public. On réussit surtout par ses défauts. Quand je suis très content de moi, je suis approuvé de 10 personnes. Quand je me laisse aller à de périlleux abandons, où ma conscience littéraire hésite et où ma main tremble, des milliers me demandent de continuer. Eh bien, malgré tout, et une fois l'indulgence obtenue pour les péchés véniels, oui, j'ai été modeste. Et ce n'est pas sur ce point que j'ai manqué à mon programme de sulpicien obstiné. La vanité de l'homme de lettres n'est pas mon fait. Je ne partage pas l'erreur des jugements littéraires de notre temps. Je sais que jamais un vrai grand homme n'a pensé qu'il fût grand homme, et que quand on broute sa gloire en herbe de son vivant, on ne la récolte pas en épi après sa mort. Je n'ai quelque temps fait cas de la littérature que pour complaire à M. Sainte-Beuve, qui avait sur moi beaucoup d'influence. Depuis qu'il est mort, je n'y tiens plus. Je vois très bien que le talent n'a de valeur que parce que le monde est enfantin. Si le public avait la tête assez forte, il se contenterait de la vérité. Ce qu'il aime, ce sont presque toujours des imperfections. Mes adversaires, pour me refuser d'autres qualités qui contrarient leur apologétique, m'accordent si libéralement du talent que je puis bien accepter un éloge qui dans leur bouche est une critique. Du moins, n'ai-je jamais cherché à tirer parti de cette qualité inférieure qui m'a plus nui comme savant qu'elle ne m'a servi par elle-même. Je n'y ai fait aucun fond. Jamais je n'ai compté sur mon prétendu talent pour vivre. Je ne l'ai nullement fait valoir. Ce pauvre Belé, qui me regardait avec une sorte de curiosité affectueuse mêlée d'étonnement, ne revenait pas que j'en fisse si peu d'usage. J'ai toujours été le moins littéraire des hommes. Au moment qui ont décidé de ma vie, je ne me doutais nullement que ma prose aurait le moindre succès. Ce succès, je n'y ai point aidé. Qu'il me soit permis de le dire, il eût été plus grand si j'avais voulu. Je n'ai nullement cultivé ma veine. Je me suis plutôt appliqué à la dérivée. Le public aime qu'on soit absolument ce que l'on est. Il veut qu'on ait sa spécialité. Il n'accorde jamais à un homme des maîtrises opposées. Si j'avais voulu faire un crescendo d'anticléricalisme après la vie de Jésus, quelle n'eût pas été ma popularité? La foule aime le style voyant. Il m'eût été loisible de ne pas me retrancher ces pendeloques et ces clinquants qui réussissent chez d'autres et provoquent l'enthousiasme des médiocres connaisseurs, c'est-à-dire de la majorité. J'ai passé un an à éteindre le style de la vie de Jésus, pensant qu'un tel sujet ne pouvait être traité que de la manière la plus sobre et la plus simple. Or, on sait combien la déclamation a d'attrait pour les masses. Je n'ai jamais forcé mes opinions pour me faire écouter. Ce n'est pas ma faute si, par suite du mauvais goût du temps, un filet de voix claire a retenti au milieu de notre nuit, comme répercuté par mille échos.